Rencontre avec les éditions Rodrigoy. Spirale sur les nouveaux conflits générationnels, dossier qui veut souligner entre autres la part conflictuelle des relations intergénérationnelles, cette part politique qui donne du mouvement à une société, dit-on. J'ai proposé une rencontre avec deux des éditeurs des éditions Rodrigoy, Pascal Angelo Fioramand et André Racette. La troisième éditrice, Claudine Vachon, n'est pas avec nous pour cette rencontre. Née en 2003, les éditions Rodrigoy ont publié 8 ouvrages et en annonce 4 autres pour 2007, entre poésie, récits, nouvelles. Avec beaucoup d'humour, d'ironie et de sérieux, ces ouvrages coulent des rapports humains avec tout ce qu'ils ont de prétentieux, de contradictoire et de désespéré dans le sexe, la violence, l'alcool, la sueur des sportifs ou encore la bouse de vache. Parce que la campagne, dit-il, est un mauvais thème, Rodrigoy présente ainsi sa politique littéraire.
Face à l'émergence anarchique des nouvelles écritures et croyant activement à l'urgence créatrice de leur donner une place aux côtés des circuits déjà existants, les éditions Rodrigoy orientent leurs publications autour de thématiques contemporaines bouleversantes, voire violentes, faisant fi des formes et des genres littéraires. Désireux de saisir cette fougue créatrice et de la capter dans son élan premier, les éditions Rodrigoy favorisent la publication des œuvres authentiques dont la charge et l'engagement poétique les inscrivent dans la mouvance artistique actuelle. Appuyés d'une démarche productrice respectant les valeurs artisanales de la fabrication du livre, les ouvrages seront perçus davantage comme des objets d'art. Les éditions Rodrigoy s'engagent à soutenir chaque projet artistique ou processus créateur à caractère littéraire en respectant toujours les valeurs esthétiques et communautaires de la collectivité dont elles sont issues.
Avec une telle politique, ça m'amène à une première question qui va lancer le bal.
OK, vas-y.
Autour des conflits de génération, j'aimerais savoir contre qui vous êtes fâchés finalement. Mais bon, pour prendre les choses un petit peu plus indirectement, pour y arriver en douceur, je vais vous poser une première question. Donc, il y a deux mots qui reviennent à la fois dans vos préfaces et dans cette politique littéraire. C'est le mot actuel et communauté ou bien collectivité. Et je vous cite d'ailleurs dans la préface des textes récoltés collectifs sur la campagne. Il y a au sein des publications actuelles un engouement pour les collectifs thématiques. Ça doit être sans doute un peu ironique. Donc, je me demande quel sens vous donnez à actuel puis à communauté. Donc, les deux questions, je ne sais pas, peut-être Pascal.
Okay, ouais. Je pense que, premièrement, actuel, c'est ce qui se fait maintenant. C'est-à-dire, c'est les productions qui se déroulent dans les années qui nous voisinantes, si on veut. Puis, communauté, tu parles? Communauté, dans le cas de notre politique littéraire, je pense, perçu parce qu'on était un groupe de créateurs qui, depuis des années, on faisait des projets différents d'organisation des cabarets, des spectacles. Et puis donc, c'était comme de ce groupement-là, finalement, a émergé le projet de faire de l'édition, tout simplement. Et puis, donc, c'est peut-être ça, cette communauté de base-là, c'est des amis proches à la base, mais après ça s'est élargi. Là,
oui, parce que, ce que j'avais remarqué d'ailleurs avec vos collectifs, donc une espèce de voix, vous avez rassemblé des voix finalement en commun autour de deux sujets en plus qui sont collectifs, c'est-à-dire le sport et quelque chose quand même de la communauté dans le sport, la campagne également, je ne sais pas trop.
Oui, ce qui nous intéressait finalement dans le côté collectif, c'était la mise en commun de nos ressources.
C'est ça.
En fait, c'est que individuellement, on pourrait chacun peut-être faire nos projets ou créer chacun de notre côté, mais Chacun individuellement, on n'est pas aussi fort que rassemblé en tant que collectif où on met toutes nos ressources vers une vision commune ou vers un projet commun, si on veut. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, que je voyais ou que je vois toujours le mot collectif.
Plus, à vrai dire, plus un projet commun qu'une vision commune, je dirais même, parce que ouais. La vision, à la limite, elle va se dégager par l'action, tu sais, ouais. Parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, je fais un lien un peu avec le truc des générations, le pourquoi de la maison d'édition, je pense qu'il y a même, on en glisse un mot dans la politique littéraire, on a voulu faire les éditions pour rajouter une voix, pas pour nécessairement protester contre une qui était déjà là, mais tout simplement, on pense que dans le panorama culturel, on pouvait prendre une place, c'est tout. Je pense pas que... En tout cas, on n'a jamais senti, on ne s'est jamais positionné, j'ai l'impression, contre quelque chose nécessairement, tu sais. C'est un besoin qui est tout simplement, puis je pense qu'on l'applique.
Comment vous définiriez d'abord ce que vous faisiez dans les cabarets et autour des gradationnistes aussi, donc certaines personnes qui gravitaient autour, le bassin finalement qui vous a soulevé un peu, qui a émergé aussi quelques écrivains. Ce que je me demandais, c'est vous n'avez pas de projet commun, mais il y a quand même une idée de rassembler des genres de textes. Qui aurait soit une voix qui vous plaît, du moins.
Oui, qui nous plaît. Je pense que le fondement même, c'est on publie ce qu'on aime, sinon on ne publierait pas. Ouais. C'est bien clair.
Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs. Mais en fait, je pense que c'est ce qui caractérise à peu près tous les écrivains qu'on a publiés et aussi ceux qu'on rassemble dans nos cabarets, là, autant que possible, en tout cas. C'est que souvent, ces gens-là, dans un cercle, si tu veux, établi ou dans une maison d'édition plus ancienne ou autre, en tout cas, ils seraient des espèces d'individus bizarres, des bizarroïdes, des uniques en leur genre. Et, ouais. Le fait qu'on se rassemble sous cette espèce de projet commun qui est Rodrigol, ça donne une cohérence à tout ça parce qu'on additionne des visions du monde différentes et des visions du monde aussi qui sont un peu qui recherchent, si tu veux, justement la différence ou qui veulent, si tu veux.
Je comprends, ouais, mais sans devenir non plus juste un freak show de parents.
On
pogne les plus fucked up, là, donc.
Non. Vous avez tous à peu près le même âge, donc est-ce qu'on pourrait quand même dire que c'est pas en plus en lisant les ouvrages que vous publiez, il y a quand même une espèce d'effet de parenté ou de résonance d'un livre à l'autre. Vous êtes tous nés à peu près au début des années 70, autour de 73, 74, 76, autour de ça. Ouais. Donc, il n'y a pas... Il n'y aurait même pas un petit moyen de parler d'une génération... D'une part de la génération.
Ben, écoute, c'est très drôle parce que, dans le fond, on le fait par... J'ai l'impression qu'on le fait malgré nous. On le fait par les fréquentations qu'on a et tout. Puis... Bien, je pense qu'au niveau social, je connais pas beaucoup de gens qui sont dans des groupes où est-ce qu'il y a de l'enfant de 12 ans à la personne de 50 ans à la même table le vendredi soir. À part dans des situations familiales, j'en connais pas beaucoup là, au niveau... Il n'y a rien qui favorise ça dans la société, nécessairement. Fait que donc, on le fait peut-être par dépit ou par
une question d'amitié.
C'est ça. Puis par habitude, tout simplement. Ceci dit, on n'a jamais posé... où on s'est jamais posé si jamais on reçoit un ouvrage de quelqu'un qui a 50 ans et que ça sonne pour nous. Il n'y aura pas de... Il n'y a pas de limite d'âge, là. Il va payer plus cher, non.
J'ai toujours voulu inclusif d'une certaine manière parce que il y a des gens, tu sais, oui, il y a des relations à l'intérieur du groupe qu'on se connaît depuis longtemps, mais il y en a d'autres aussi que c'est plus récent, leur inclusion, si tu veux, dans l'affaire, même s'il n'y a pas d'adhésion comme telle. Ce que je veux dire, c'est que
d'ailleurs, c'est ta carte de membre.
c'est ça, c'est l'amitié, c'est au fil des amitiés, c'est au fil des relations. Puis, socialement, on est dans un milieu d'artistes, on est dans un milieu d'écrivains. Et puis, ça donne que les gens qui sont restés amis ou avec lesquels on a développé des amitiés, on avait des choses en commun, on avait des pensées communes, on avait des idées communes, on partageait des valeurs. C'est peut-être là que ça rejoint un peu le concept de génération. C'est qu'on est des amis qui ont à peu près le même âge et qui partagent un certain nombre de visions du monde. Et, de...
et vous dites aussi que vous publiez les premiers élans. Ce que vous voulez... je ne sais pas, comme si c'était... Pas les brouillons, tout de même.
On travaille dessus pas mal.
Mais c'est dans votre politique, vous voulez capter comme les premiers élans, comme quelque chose, quand même de l'ordre de la spontanéité, pas trop non plus un travail trop littéraire, mais un travail qui serait plus près d'une pulsion littéraire, je ne sais pas.
Ben, c'est parce que je pense que ce qui nous. Quand on a cette préface, cette politique a quand même un peu d'âge. Et puis quand on l'a conçu, on avait l'idée. Ben, on avait pas l'idée, mais ce qu'on voulait transmettre un peu avec ça, c'était l'idée de saisir la matière brute qu'est l'écriture. Et donc, puis de pouvoir, tu sais, justement dégager un peu le truc, puis d'arriver à quelque chose de substantiel. Donc c'était peut-être plus ça l'usage de l'élan premier. C'est, peu importe le projet, si on pense que s'il y a matière, let's go, on y va, tu sais, on veut. Il y a une espèce de fougue un peu avec l'élan premier, justement. Tu sais.
Bon,
l'élan premier n'est pas nécessairement non plus destiné à un premier projet d'un premier auteur. Ça peut être peu importe quand ça arrive.
Donc, la publication des jeunes auteurs, souvent ils en sont à leur premier livre, hein, produit sans doute un effet de génération, même si la véritable raison de ce type de publication réside peut-être dans le fait que vous publiez des gens que vous connaissez, que vous avez rencontrés au gré des événements que vous avez organisés, les cabarets Rodrigol et autres. Cet effet de génération, en tout cas, s'il y en a un qui peut recouper finalement une communauté d'amis ou de sensibilité commune en devenir, hein, se perçoit aisément dans certains thèmes des ouvrages que vous publiez, l'alcool, le sexe, la violence, le vide, l'écœurement. Abordés à la fois de manière ironique et aussi sérieuse, discutez-vous parfois de ces thèmes entre vous en prenant conscience qu'il s'agit au bout du compte de représentations assez désespérées des êtres humains et de leurs relations?
Je pense que c'est pas juste des premières œuvres qu'on veut publier. Mais c'est vrai que souvent, les écrivains qui sont dans les élans premiers, comme on dit dans notre politique, dont on veut capter les élans bruts, si tu veux, de création, vont s'intéresser plus à leur réalité, qui est parfois, justement, réellement celle de désespoir, de pauvreté. Par exemple...
Ouais, Sébastien Blais, justement, ouais. C'est un bon exemple. Quand il parle de Pointe-Saint-Charles, ou de la rue Ontario, il parle réellement des putes de son quotidien. Il vivait dans un ancien dépanneur.
C'est pas un effet style, c'est
un vrai taudis, tu sais. Puis c'est, je pense qu'à la limite, c'est ça qui l'entoure. Puis...
Mais on n'a pas de vision, c'est-à-dire de discussion à savoir est-ce qu'on doit parler des thèmes ou est-ce qu'on doit absolument... Nous, on publie ce qui nous fait vibrer, on publie les textes qu'on considère authentiques, qu'on considère intéressants, mais il n'y a pas de visée, disons, pour
réflexive ou critique.
Oui, mais pour exclusivement refléter une réalité comme telle, on veut que...
On ne cherchera pas à les amalgamer dans un style précis, ouais. À la limite, tu sais. En autant qu'on sente que la charge de création est là, il y a une intensité, peu importe la manière que c'est dirigé ou c'est exprimé, je pense que c'est là que notre intérêt réside, finalement.
Vous ne voulez pas donner forme, finalement, à ces premiers élans-là. Vous les laissez venir... les laisser venir à vous, finalement, en les publiant.
Oui, c'est ça. C'est la charge... c'est la charge, si on veut, des jeunes auteurs. C'est le côté authentique.
Et peu importe, même si c'est
c'est assez désespérant par moment. Désespérant, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est fait avec une touche d'humour quand même.
Mais c'est qu'on a une vision d'avenir, puis on se dit, ben, sûrement que le deuxième va être meilleur.
Ils vont vous écouter.
Là. Ils vont se récupérer.
Ils vont s'en sortir.
Ben oui, c'est clair.
Ce que vous voulez finalement aussi, c'est éviter un peu l'esthétisation aussi de thèmes en donnant pas en disant bon on publie ce qui vient, on publie pas en fonction de thèmes, les thèmes arrivent par eux-mêmes dans les œuvres.
Au gré de chaque auteur qui porte lui-même sa parole, qui porte ses préoccupations individuellement, mais c'est pas une vision de groupe.
Il n'y a pas une esthétisation de la déchéance, là, par exemple.
Non, c'est ça.
Publier, pas parce qu'un auteur va parler de la déchéance de son quartier,
qu'il va être publié. Il y a une carte blanche immédiatement.
Donc, passons complètement à une autre question. Hein. Qu'est-ce qui vous distingue des autres éditeurs? Hein? Qu'est-ce qui vous déplaît chez les autres éditeurs que vous n'aimez pas et qui pourrait expliquer en partie, évidemment en partie, votre désir de publier des textes? Quand même, ce désir-là doit reposer sur une espèce de membre, enfin.
Ben, c'est qu'à la base, le regroupement autour de Rodrigol, finalement, on faisait des spectacles, on faisait des mondes, de la chanson, décider ça, on montait des shows, puis finalement c'est vraiment et de là a émergé une espèce de besoin parce qu'il y avait autour de nous des gens qui écrivaient et puis on a ressenti le besoin de passer à la chose écrite. Je pense qu'à la limite même toute l'élaboration de plein de courts-métrages, de spectacles a peut-être servi de rodage à ce qu'on arrive à faire cette application-là, parce que c'est un travail qui est quand même qui exige une espèce de côté assez plus rigoureux d'une certaine manière que l'instantané ou le spectacle. Mm-hmm. Fait que donc c'est parti de là, on n'a pas parti parce qu'on était fâché contre quelqu'un en particulier
Mais en même temps, il y avait une prise de position. Au départ, quand on a commencé la maison d'édition, on a été visiter des librairies. Puis, on s'est intéressé un peu à la production actuelle, aux livres en tant qu'objet. Puis, on s'est rendu compte que, en tout cas, à notre goût, on trouvait que les livres qui étaient plutôt du type produit culturel, ça avait l'air des produits cheap, des qualités de fabrication un peu industrielles, banales, communes.
Ouais.
Et nous, on a voulu se positionner un peu contre ça en disant on va privilégier un livre qui est beau, qui est plus de qualité, dont le graphisme est soigné, dont même le toucher ou la couverture ou le papier est de qualité. Et puis, dans le but que ce livre-là ait une durée aussi, soit...
Plus comme un objet, comme un objet, à la limite... Presque comme un objet d'art et pas comme un objet de consommation quotidienne.
En plus, vos livres ne se ressemblent pas. La dimension change, les couleurs changent.
Dimension demeure la même. À part la collection, les petits collectifs sont plus petits.
Oui, mais c'est vrai.
Étonnamment, nos livres sont tous de la même grandeur.
En tout cas, il n'y a pas de maquette.
Il n'y a pas de maquette, c'est ça.
Qui revient de livre en livre et qui identifierait, si tu veux, la maison d'édition.
C'est ça.
C'est plus une vision. Chaque projet appelle sa propre maquette, son propre graphisme, son propre esthétisme, justement.
Qui fait ces livres-là?
Justement, dans notre recherche au début... parce qu'on néophyte comme nous étions, on s'est dit justement en allant dans les librairies, puis en fouillant un peu, en farfouillant à gauche à droite, on s'est dit qu'est-ce qui nous plaît comme ouvrage.
Ouais.
Et puis il y a comme une espèce de constance là-dedans. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient faits ici, qui nous plaisaient, qui avaient été imprimés par des imprimeurs à Saint-Félix-de-Valois. Des vieux de la vieille, Ginette Naud-Daniel Beaucaire, pour pas les nommer. Puis finalement, on s'est dit, c'est eux qu'on va approcher. Puis on s'est, tu sais.
Donc, ils étaient approchés en voyant ce qu'ils avaient fait.
En voyant ce qu'ils avaient fait, puis on se dit, hey, c'est beau ça, ce papier-là, c'est magique, ce petit livre-là. Tu sais, où est-ce que tu Ou est-ce que tu sens que c'est pas juste une job, c'est pas juste le graphisme qui est intéressant, c'est pas juste le choix de papier, mais c'est comme l'ensemble de, du travail qui semblait répondre à ce qu'on cherchait finalement. Puis on a été les rencontrer dimanche, puis tout ça, blabla, puis ça a cliqué, puis on a comme. Ouais, c'est ça, ça.
Donc, le projet aussi est une totalité, c'est-à-dire en plus du contenu, le contenant devient aussi fait partie du projet d'édition.
Effectivement, effectivement, c'est ça. Il y avait comme. Oui, puis je pense qu'on aussi. Peut-être aussi que le côté humoristique, souvent. Accolé autour de Rodrigo parce que les cabarets, on en profite pour que ça soit plaisant.
Ça
ou
colle à Rodrigo.
Ben, exactement. Peut-être que finalement aussi l'idée de faire des produits qui étaient plus poussés ou plus développés, c'était peut-être aussi pour casser cette habitude de dernière minute. En faisant un produit qui est beau, un ouvrage qui se tient, c'est comme. Ça montre un peu un sérieux dans la démarche aussi, dans la production finalement.
Oui, on sort du brouillon déjà quand on
exactement,
met les livres
dans
les mains, on n'est pas dans le brouillon.
Le brouillon sur le texte, c'est pas le livre.
C'est pas photocopié, tacté.
Non, c'est ça, enfin, on a mal au poignet.
J'aurais une question plus, disons, un peu plus politique. Hein. Je dirais même si le contexte a changé par rapport aux années 60-70, où on était finalement assez politisé, je dirais, les écrivains, mais la question en général. Pensez-vous qu'une grande partie de votre génération, qui est aussi la mienne, est apolitique, ou du moins beaucoup moins politisée qu'à l'époque?
Ben, il y a sûrement une partie qui l'est apolitique, de là à savoir si nous, nous le sommes. Je sais pas, je peux juste répondre à. Je peux pas répondre pour les auteurs. À titre très personnel, je me sens très politisé, très. Ceci dit, ça veut pas dire que ça se reflète dans la création comme pouvait se refléter dans les années 70 un certain. Un certain pan de la création au Québec, tu sais.
C'est-à-dire que par exemple, dans les années 60. Refléter dans des poèmes la réalité de Saga Maisonneuve, il y avait une part très politique qui était revendiquée, ou du moins on l'accrochait rapidement
mais c'était plus une
mouvement de libération. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que ce que fait Blais, par exemple, est moins. L'est encore politique, mais peut-être un peu moins.
Ben, ouais, mais c'est ça, c'est difficile de faire la différence entre. Politique et identitaire. Parce que peut-être que à l'époque, dans les années 60, les gens qui travaillaient, mettons, dans une similitude de travail comme Blais peut le faire dans son œuvre, c'était peut-être plus pour comment je pourrais dire, énoncer un fait, montrer les gens de chez nous d'une certaine manière, de faire découvrir, alors que
la prise de parole
était peut-être plus au point de vue, je pense, de l'identité, de nommer les choses qu'on n'avait jamais nommées, et pas nécessairement pour un politique de cette façon-là. Mais ceci dit.
Parce que vivaient, par exemple, peut-être à l'époque, les poètes et ce qu'ils disaient dans leurs poèmes, il y avait comme tout de suite un lien avec la communauté qui se faisait. C'est ce que je vis finalement, c'est le peuple qui le vit.
Ouais,
peut-être que Blais aujourd'hui, ce que je vis, c'est d'abord moi qui le vis, puis je le dis pour
sens-là. Ok, dans ce sens-là, il y a peut-être. Mais c'est parce qu'il n'y a peut-être plus dans la défaite d'ensemble non plus. T'sais, il y a une fragmentation totale de... Tout le monde est pris dans des problématiques individuelles.
C'est une question de durée aussi. On dirait qu'aujourd'hui, les générations sont désignées par les produits de consommation, justement. Et comme la consommation est une...
Accélère.
L'économie est une machine destructrice qui n'arrête jamais, qui est un cycle qui n'arrête jamais, finalement. Bref, les générations sont désignées par... de plus en plus brièvement par des produits de consommation. Tu sais, on parle de la génération Nintendo, de la génération
Passepartout,
de la génération, trouve le nouveau gadget à la mode, iPod ou whatever. Et puis, ce qui fait que dans la durée, il y a moins de communautés mm-hmm. si on veut, d'idées, communautés d'intérêt, qui pourrait peut-être être un liant politique, justement, sur, ouais. sur une génération. Et je trouve que c'est ça, donc, la, dans la relation au temps et la relation à si on veut, au murmure marchand, on a perdu peut-être cette politisation-là de générationnelle, si on veut. Mais encore, on le sait, il y a encore, dans, si on parle de notre génération, des gens qui sont engagés. Nous-mêmes, on est engagés, mais ça ne se reflète pas nécessairement collectivement dans notre engagement dans Rodrigol, par exemple.
Oui. Non, mais ça fait
mais quoi, en même temps, l'engagement de Rodrigol au Québec en 2007, à la limite, c'est un engagement par rapport à une certaine indépendance de la culture. Il y a une espèce
c'est pas
de...
politique comme tel. C'est pas, on n'a pas, on pas publié des essais identitaires.
Non, effectivement. Mais on n'a plus besoin de faire ça. C'est ça que je dis. C'est qu'en 1960, justement, les poètes, peut-être quand ils parlaient du peuple, puis ça résonnait chez le peuple, peut-être qu'il y avait justement cette idée de se faire connaître. Et maintenant que nous sommes connus, d'une certaine manière, il y a peut-être... On est peut-être plus obligé d'avoir un message pour l'ensemble, mais un message qui va aller chercher certaines parties de
ouais.
certains fragments de cette communauté-là.
Oui, non, je crois que c'est assez clair. Je crois que ça décrit assez bien. Peut-être aussi votre projet, comment votre projet est assez cohérent avec ça, c'est-à-dire que vous êtes une communauté de singularité. Je pense qu'aujourd'hui, oui, là, politiquement, on peut avoir une parole plus individuelle et on sait de toute manière qu'elle va plus ou moins circuler dans la société sans nécessairement faire le contact aussi directement qu'on le faisait
avant. On a des cartes de membres pour les gens qui veulent être partis, là.
Oui, ça serait toute une autre question. Êtes-vous marxiste?
Seulement les fêtes de semaine.
Marxiste du dimanche.
Donc, même si vous n'avez pas de programme, vous formez tout de même quand même une communauté, hein, une communauté, disons, de singularité. Hein. En publiant des collectifs, par exemple, vous réunissez des voix. Donc, je me demande si parfois vous rêvez pas de dogmes, de principes exposés dans un manifeste, comme les avant-gardes le faisaient, et qui pourraient vous définir comme communauté.
Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on a été... Moi, en tout cas, et Pascal probablement aussi, à une certaine époque, très, très séduit par les manifestes, les futuristes, les surréalistes.
Même récemment, Dogma, tu sais, le truc en cinéma de Lars von Trier, justement, où est-ce que il y a comme des règles à suivre et tout. T'as l'impression qu'il faut que tu t'habilles propre ou je sais pas.
Il y a quelque chose de romantique là-dedans, parce qu'on dirait que... Énoncer un manifeste, c'est comme énoncer automatiquement quelque chose qui va être à bas, si tu veux, une esthétique établie pour devenir enfin l'esthétique à abattre dans un espèce de cycle. Fait que finalement, surtout aujourd'hui, en notre ère médiatique et d'éclatement complet des voix, peut-être que ce serait complètement futile d'écrire des manifestes, puisqu'il y aurait autant de manifestes à écrire qu'il y aurait d'individus.
Pratiquement, j'ai l'impression que une bonne partie de du principe du manifeste se posait contre une autre école, puis justement avec la fragmentation de la culture et puis des démarches artistiques, ça devient... On plancherait jour et nuit à faire des manifestes.
C'est comme si les écoles établies, si tu veux, qui énoncent les canons, on dirait qu'elles sont moins prédominantes. C'est pas peut-être une impression, mais on dirait que c'est pas... peut-être qu'il y aurait... On pourrait difficilement identifier qu'est-ce qu'on veut avoir.
Mais en même temps, ça serait facile à identifier, mais je pense pas qu'on arriverait de façon commune à définir la façon qu'on va attaquer ces cibles-là, à la limite.
Ouais, okay.
Il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que ce qui est intéressant d'une certaine manière dans... dans le travail de Rodrigo, c'est que chacun porte le message de sa façon. Je pense pas, je pense qu'on aurait de la difficulté à s'unir par rapport à ça.
Ouais, si je comprends bien, c'est que premièrement, il y a un fait comme inéluctable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça circule tellement assez rapidement les formes, se déforment et se reforment constamment. Et comme tu dis, Pascal, il faudrait écrire des manifestes une fois par semaine.
Oui, puis l'idée aussi de se positionner dans le temps, dire OK, ben là, aujourd'hui, là, nous, on pense ça. Il y a comme.
Ouais.
Ça va nécessairement être obsolète dans 6 mois. C'est un peu comme les chansons de l'année de mon oncle Serge, sont excellentes, soit disant, pour ça, mais quand t'es 8 ans ou 10 ans après, tu écoutes ça, tu dis, ah ben, chez Lockup, c'est plus là, un tel est plus là, un tel. Ça perd un peu son. C'est trop marqué dans le temps. Puis ça, je pense que c'est. En tout cas, c'est pas le type de création que moi, je préconise.
D'espérer peut-être un peu plus. Pas quelque chose d'universel, mais sortir un peu du temps. Vous ne voulez pas vous imposer comme histoire, comme une histoire. Il y aurait une histoire des années 80, du début des Rodin Boy, comme il y en aurait une dans 4 ou 5 ans, ou comme il y en a une en ce moment.
Mais il y en a une, de toute manière. Elle ne sera peut-être pas écrite par nous, ou à un moment donné, quelqu'un va vouloir faire du cash, là, savoir qui va vendre les secrets et à combien.
Donc, même si cette communauté de singularité n'a pas de principe, n'a pas de manifeste qui la rassemble, ça tient quand même. Comment vous définiriez ce qui vous tient ensemble? À part les, comme on l'a déjà dit plus tôt, vous êtes à peu près pas mal du même âge, vous êtes des amis, vous avez fait des cabarets ensemble. Qu'est-ce qui tient quand même tout ça?
Mais peut-être que c'est ça ce qui nous définit finalement, c'est que on n'est pas dans la théorisation, on est dans l'action. Puis on est dans le fait d'agir. Ce dont tous les gens qui sont dans Rodrigo ont en commun, c'est qu'ils ont senti l'urgence de prendre la parole et de monter sur scène, de publier un livre, de faire des films, de participer à des émissions de radio, etc. Et ça n'a pas été un mouvement, justement, de on se pense, on réfléchit, tout ça. Tout ça est venu après coup, si tu veux, l'espèce d'unité dans le groupe. Mais
cette unité-là.
Fondamentalement, c'est l'action qui nous caractérise.
Prendre la parole.
Oui, puis cette unité-là, elle est uniquement. Elle n'a de sens que dans l'action, à la limite, parce que jamais on se réunit entre nous, puis on se dit. Bon, qu'est-ce qu'on pense, groupe, là? D'une certaine manière, c'est rare les occasions qui permettent qu'on se théorise nous-mêmes, là.
Donc, ce projet, finalement, c'est le projet est lancé et il s'alimente, finalement, au gré des écrivains que vous trouvez. Et que si ça tient ensemble, finalement, c'est ceux qui viennent se greffer.
Oui, parce que nécessairement. Je pense que l'expérience du projet, en général, va engendrer le fait qu'on va peut-être correspondre à ce que d'autres gens cherchent aussi au niveau de leur relation littéraire, carrément.
Mais curieusement, même s'il n'y a pas de, si tu veux, de dénonciation théorique ou de règles ou de manifestes, mm-hmm. on est quand même capable. Par affinité, par sentiment, si tu veux, de savoir avec qui on a des affinités et qui est, si tu veux, en dehors de la frontière, même si c'est flou et pas nécessairement c'est pas une orthodoxie, mais je veux dire, on va avoir des affinités très intuitivement avec des gens, des visions du monde qu'on partage, des valeurs peut-être, et qui vont faire que, oui, il va y avoir des affinités, des accoquinements créatifs entre les gens, mais on sait très bien quand on reçoit un manuscrit si c'est Rodrigo ou si c'est pas Rodrigo.
Mais en même temps, quand vous recevez, vous décidez, ah oui, lui, on le publie parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous ressemble là-dedans, c'est peut-être à ce moment-là que vous prenez conscience que c'est ça qui nous touche.
Mais oui, ce qui nous touche, en fait, c'est C'est surtout des gens, mais ce qui ne nous touche pas en tout cas, c'est la prétention. Puis, tu sais, vouloir faire, je sais pas, prendre une posture un peu fausse d'écrivain ou d'écriture et aussi reproduire des espèces de discours éculés ou ça, ou pas originaux. On croit en l'originalité de la voix, en l'expression d'une intelligence, mais manière, je dirais, il faut qu'il sorte un peu
sans prétention.
Ouais, sans prétention, mais qu'il sorte des sentiers battus aussi, qu'il ne soit pas trop habituel. Il y a des œuvres qui sont très belles, très bien écrites, mais qui ne vont pas nous parler parce que justement, elles vont être trop sérieuses, trop prétentieuses.
Alors, des œuvres qui portent au sens où elles vous mènent à quelque part, vers un lieu où vous avez envie d'aller.
Oui, puis aussi, c'est qu'à la petitesse de maison qu'on a et qu'on est, il y a aussi une question que les choix qu'on fait, finalement, on s'y donne dans une intégralité. C'est qu'on a besoin de sentir que ce texte-là qui nous parle déjà, bien, qui va créer une affinité encore plus grande, puis qui va générer finalement justement qui va générer de la force.
Oui, qu'on va être capable de le pousser, ce texte-là, parce qu'on y croit.
C'est ça, exactement.
Et parce qu'on a la vision de ce qu'il pourrait être et on a...
D'accompagner les écrivains dès le moment où vous avez fait un manuscrit qui vous semble bon, est-ce que vous l'accompagnez
tout à fait.
Ah oui, on passe page par page.
C'est vrai. Avec lui.
On a une rencontre avec tous nos auteurs déjà.
C'est ce qui fait l'originalité de Rodrigol, c'est que notre comité éditorial est tripartite, si tu veux, trois têtes. On a chacun une lecture et un background un peu différent, mais similaire, mais en tout cas, et on apporte nos trois voix, on apporte nos trois visions du texte pour aider l'écrivain à pousser son texte et justement du fait que des fois quand on ferait une direction littéraire de seul à seul, peut-être que là il y aurait comme une espèce de d'explications qui pourraient s'en suivre avec l'écrivain, mais du fait que quand on est trois et qu'on voit qu'il y a deux personnes, mettons, dans le groupe qui ressentent la même chose, ça ajoute une force à l'argumentation et on est capable de pousser le texte justement parce qu'il y a trois voix, trois intelligences, trois visions.
Donc vous le rencontrez là, vraiment.
Oui, on rencontre tous les auteurs.
Pas juste par email.
On rencontre des auteurs, puis chacun a une copie où est-ce qu'on a fait nos annotations, puis l'auteur a sa copie, puis on passe. Moi j'ai pensé ça là, puis là, un tel. Puis des fois on se rend compte qu'on a pensé les mêmes choses justement. On n'essaie pas de C'est jamais, on délègue jamais les trucs. Toi, tu vas y faire tous les jobs parce que justement, on s'exprime pas chacun différent, puis on s'exprime tous différemment, c'est-à-dire, puis des fois, ça permet même juste d'avoir une discussion, puis tout le monde, on convient, ouais, ok, c'est ça, c'est bon, j'avais mal lu ça. C'est
peut-être là que ça tient aussi à un moment donné où on vous propose quelque chose, puis après.
Mais c'est comme nécessaire de faire ça. Justement, on a fait deux fois par Internet. La première fois, on a eu des menaces. Mais il faut dire que l'auteur en question. On a eu des menaces de destruction de texte et de se faire poursuivre. Mais connaissant bien l'auteur, on a fait un mea culpa. On savait que c'était des menaces futiles. Parce que, justement, ce qui est étrange avec le. Quand même, puisque beaucoup de gens constatent, c'est le ton. Le ton qui n'est pas là dans le courriel. Et puis des fois, tu écris une phrase, puis tu ne penses pas que ça va être aussi perçu de cette façon-là. Ouais. Ceci dit, le dernier livre qu'on publie, Vincent Tholomé, le nouvel ouvrage, c'est un Belge, puis on a travaillé avec lui par Internet, puis ça s'est super bien passé, parce que justement, quand on a eu nos réunions, on s'assurait que ce qu'on allait y écrire était clair, puis pour pas qu'il y ait...
Il était en Belgique, donc...
Il était en Belgique, puis on a fait vraiment un travail, c'était super intéressant de travailler avec lui, là, justement.
Pour pas recevoir de menaces...
Non, pas cette fois-ci. Du moins, les menaces sont plus loin, alors...
Je vais demander sur une note un peu plus humoristique. En quoi l'Empire Rodrigole, Empire Rodrigole quand même, l'accumulation d'événements divers couvre à peu près tous les domaines de présentation de ce que vous faites, livres, cabarets. Sans doute, il va y avoir des DVD à un moment donné, ou je ne sais pas, des disques. Donc, je me demande comment l'Empire Rodrigole se distingue, disons, des intentions de l'Empire québécois.
Mais il n'y a pas de différence.
On veut grossir, on veut acquérir nos concurrents, on veut rayonner sur le monde. Non, je pense que l'Empire québécois est vraiment un modèle à suivre.
En tout cas, ils ont réussi.
Mais
il y a quand même un peu plus que la recherche du profit. J'imagine, en tout cas
pour l'instant. Sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait abandonné.
Les actionnaires de l'Empire Rodrigole,
ils sont assez patients.
Donc pas des créateurs isolés. Vous êtes une petite communauté d'amis ouverte à tous, en autant que ça vous plaît. Vous n'avez pas toutefois de principe formel ni de manifeste pour quelque chose qui vous permet d'emblée d'envisager de continuer une espèce de devenir des éditions sans vous restreindre à un parti pris. Cet esprit entre amis manifeste tout de même une réaction contre cette génération de consommateurs isolés, là, comme André a dit, génération Nintendo, passe-partout, etc. Il y a quand même une critique de votre génération, de notre génération, hein, dans votre mode d'âge. J'aimerais que vous parliez un peu de cette critique-là.
Ouais, c'est peut-être plus finalement un positionnement face au monde culturel ou à la production culturelle, tu sais, face au soit à la culture de masse et la culture moins de masse, finalement. Je sais pas comment je pourrais la cataloguer. Ouais, ouais. Je veux pas. C'est pas une affaire d'élite, là. Je pense que c'est juste une question de. Ouais, il y a l'art du divertissement et il y a il y a une genre de culture de création à différents degrés, là, même en littérature.
Donc l'esprit avant-gardiste, ça vous touche évidemment plus.
Non, parce que c'est pas une entreprise idéologique, c'est pas y a pas de volonté égoïste ou de vouloir justement faire école, devenir un mouvement artistique. Enseigner dans les manuels ou...
Mais on fait école.
Avoir des principes esthétiques nouveaux. C'est pas une volonté de vouloir imposer la nouvelle vision. La volonté, c'est le besoin, en fait, parce que c'est un besoin aussi. C'est d'être diffusé, d'avoir un lieu qui nous ressemble. Peut-être que justement le fait que ce soit des besoins de base de même démontre qu'on n'est pas dans l'élaboration théorique.
On n'essaie pas d'éviter ou de... Non, c'est de produire finalement. C'est vraiment le moteur, je pense. Après, on verra. Après les analyses.
On vous analyse. S'il y en a qui s'intéressent à...
Ouais, ou nous, si jamais on obtient des subventions, on pourra commencer à penser un peu plus à nous.
Vous comptez, enfin?
Notre avocat nous dit de ne pas répondre à cette question.
OK, très bien. Pas de problème. Il y a le titre d'un des derniers recueils que vous avez édité, « Toute sortie définitive ». Je me demande, pour finir, ça serait bien de pouvoir même finir notre entrevue avec ce titre-là. Je me demande si c'est pas un énoncé qui résumerait un peu le principe de votre l'apparition de vos livres. C'est-à-dire que vous le publiez, puis arrivera ce qui arrivera. Hein? C'est-à-dire que c'est fait pour être lu, point final, puis vous voulez pas non plus chacun de vos livres devienne un petit morceau de l'Empire Rodrigole.
dans le mauvais sens d'Empire, ouais. Pas dans votre dans votre sens d'Empire. C'est-à-dire que c'est une sortie ouais. définitive. C'est-à-dire, lisez-le, ouais. livre est sorti, voici le livre.
C'est, je pense que ça résume un peu ce que tu viens de dire là. Ça résume un peu notre vision des choses. C'est-à-dire que chaque projet en lui-même a son existence propre. Et y a pas, dans ce sens-là, il n'y a pas de programme vraiment qui se projette loin dans le temps. OK, on a les 35 prochaines parutions sont déjà prévues, ouais. ou même les 10 prochaines parutions. Chaque projet est unique. On le traite comme tel parce qu'on a des moyens artisanaux et on met toutes nos énergies sur un projet à la fois. Avec les avantages et les inconvénients que ça comporte, mais on l'assume. Et puis, oui, dans ce sens-là, toute sortie définitive, chaque projet est unique. On l'a...
Oui,
ouais, c'est ça.
Oui, puis vu que justement, effectivement, pour seconder sur les avantages et les inconvénients que ça peut créer, mais qui aussi à la fois, on dirait que le fait qu'on le fasse de façon... Ben, au départ, c'était de façon plus anarchique, si on veut, ouais. mais de façon plus moins prévisionnelle, malgré qu'on en a quand même, on est rendu, on est bon, on a des activités maintenant au mois de juin, tu sais. On voit qu'il y a des mois d'avance, mais on dirait le fait aussi qu'on soit autonome au niveau de tout, tout le procédé, même le financement de ça, fait en sorte qu'il y a une espèce de... On retrouve une espèce de liberté d'action et de mouvement, puis donc qui permet... Oui, c'est vrai que peut-être que pour le mois de janvier, on n'est pas capable de dire aux journalistes c'est quoi qu'on sort en cette année,
ouais.
mais en même temps, on n'est pas obligé non plus de sortir les livres. S'il se passe des mots, on peut travailler sur d'autres choses, t'sais, on n'est pas attaché. Et ça, c'est un atout, je pense, qui est important pour nous, d'une certaine manière. Puis qui permet de... J'ai l'impression qu'il est en train de permettre de qu'on ait une construction de cette maison-là, plus à notre image. Tu sais, on s'impose des objectifs, tu sais, on se fixe des objectifs, mais pas de façon...
C'est-à-dire que pour l'instant...
À échelle d'homme, d'une
certaine manière. Donc, si vous en sortez 4 cette année, l'année prochaine, ça pourrait être... 2, l'autre année 5, peu importe le
Oui, mais l'idée, c'est qu'on va, on veut quand même... Tu sais, plus qu'on en sort, plus qu'on a, on plus que s'établit un ouais. peu le truc. Donc, plus qu'il y a des trucs qui deviennent plus des trucs de routine. C'est que ça favorise le fait qu'on puisse travailler mieux. Ouais. Tu sais, on fait pas les mêmes erreurs, là, tu sais, puis ou les mêmes. Mais on capitalise les réussites. Mais non, moi, je sais pas. Si, peut-être que ça va continuer à être exponentiel, puis on va en sortir de plus en plus. Je sais pas.
Aimeriez-vous finalement ça dure un peu c'est
ouais, mais je pense
c'est
que
c'est cabaret.
Mais c'est sûr qu'on va être appelé à ce qu'il y a des gens. Mais ça s'est déjà produit puis ça se produit encore. Présentement Stéphane est déménagé à Paris, Guillaume est rendu à Paris. Bon présentement on est tous dans la région montréalaise, fait que ouais. c'est sûr. Mais en même temps pour le noyau dur des amis ça fait plus que 10-15 ans qu'on se connaît, je pense qu'on
en fait, c'est pareil. Ce que tu nous demandes là, c'est où est-ce qu'on s'imagine dans 10 ans, finalement?
Non, pas tout à fait. Juste, pas où est-ce que vous imaginez dans 10 ans, mais est-ce que vous avez envie que ça dure?
Oui, je pense que c'est la seule, en tout cas, la
manière, sinon, vous fermeriez les...
Ben non, pas nécessairement. Peut-être c'est un projet ponctuel dans le temps. Puis,
c'est pas grave. Hein, si ça fait 10 ans puis qu'on fait 45 livres en 10 ans puis on décide de mettre la clé dans la porte de ce projet-là, ouais. ça veut pas dire qu'on va pas faire un autre projet ensemble. Ouais. J'ai pas de problème avec ça.
Mais l'idée, c'est qu'on aura... moi, je pense que oui, de durer dans le temps, c'est ça qui va faire la différence peut-être aussi entre... quelque chose qui était une action un peu spontanée et sur le coup du moment et d'arriver à comment je dirais à suivre notre vocation si on veut tu sais c'est dans le sens de l'engagement on est engagé dans ce qu'on fait aussi tu sais ça a une intime relation avec ma vie là
ouais.
c'est ce que je suis en guillemets ouais. éditeur là
ouais.
fait que que ce soit Rodrigol ou pour une autre, un autre projet, je pense qu'il y aura toujours cette chose-là qui va nous animer, qui est celle de créer, de vouloir que notre voix ait un lieu pour se faire entendre.
C'est ça.
Puis,
peu importe la limite, le projet, la façon que ça va résonner ou sortir.
Oui, parce que c'est sûr que si le mouvement est un peu spontané au début, il prend forme dans toutes sortes de mouvements. Les éditions Rodrigo, c'est une partie de ce qui participe à modéliser un peu cette spontanéité. Mon entrevue aussi, faire en sorte de vous mettre.
Oui, mais ça met de la chair autour de nous.
L'énonciation.
Mais finalement, on vous demande un peu des comptes, j'aurais envie de dire. J'espère que c'est pas trop vu comme ça.
Non,
quand même. Mais ce qui participe à donner forme finalement à votre entreprise. Mais est-ce que ça ne vous dérangerait pas non plus de bouleverser ça si vous prenez un autre chemin, puis de ne pas non plus fonder quelque chose de trop fixé, de trop stable?
Mais en même temps, je te dirais que je pense pas qu'on ferait un tournant à 190 degrés, à 180 degrés, 190. Juste un petit peu plus que le tournant. Non, mais dans le sens où est-ce qu'on pourrait peut-être être appelé à travailler d'autres projets, à développer d'autres projets qui peut-être vont à un moment donné prendre plus de place que ce projet-là.
Ouais.
Mais,
donc,
mais sérieusement, on en est à notre quatrième année là, de publication, puis on a l'impression qu'on est encore au balbutiement de ce projet-là, qu'on commence à... En tout cas, il me semble qu'on commence
de choses
à
fonder, c'est ça, et à créer, à faire encore.
C'est ça, exactement.
On sentirait pour l'instant, on sentirait qu'on arrêterait.
On n'a pas accompli du tout ce qu'on doit faire.
C'est des nouveaux-nés.
Encore, oui.
Ah,
ouais, malgré
c'est
tout.
Clair, c'est
si,
clair,
si tu regardes en termes de production, c'est sûr que 4 ans, 8 parutions, je pense que ça n'existe même pas comme définition de maison d'édition, que ce soit au Conseil des Arts ou ailleurs. Fait que oui, je pense que tout est à faire encore. Fait que c'est ça aussi qui est intéressant dans ce projet-là. On dirait qu'on est motivé par toute l'ampleur de la vision qu'on voit devant nous.
Mm-hmm. En tout cas, c'est porteur comme projet, même si vous n'avez pas de principe, c'est quand même.
Le principe, c'est la volonté.
Oui. Une volonté qui se veut. Ça, c'est un projet quand même qui est. Et peut-être par petits projets comme ça qu'on voit finalement qu'il n'y a pas de grands projets de génération. C'est tout un peu fragmenté. Chacun forme ses petits groupes autour de ses idées, ce qui lui plaît. Et ne se pose pas la question de contre qui, contre quoi.
Mais en même temps, on veut... Notre formation, si tu veux, on provient tous ou presque du milieu universitaire, ou en tout cas, on est tous passés par là, ou quasiment tout le monde. Et derrière tout ça, c'est qu'il y a une idée de rigueur aussi. C'est que, oui, on est peut-être un groupement, si tu veux, qui tourne autour d'un noyau et d'amis, tout ça, qui a des valeurs qui lui sont propres, qui sont peut-être pas des valeurs collectives partagées par un mouvement social, etc. Sauf que il y a une rigueur et il y a une volonté aussi d'être cohérent et d'être intelligent. Comment je dirais? Peut-être que c'est ça qui distinguerait la pure autodiffusion sur YouTube. Je mets mon vidéo, je me publie moi-même. C'est que y a une recherche de rigueur, de qualité aussi.
C'est ça.
Vous avez un nom quand même qui vous rejoint là ensemble.
Quand
ton exemple avec YouTube est assez intéressant, ou avec tout ce qu'on peut faire sur Internet, c'est vrai que
c'est drôle parce que justement, même au départ, tu sais, on riait, ben, tu sais, Rodrigo est basé de. Tu sais, le nom, c'était un pastiche de là, 15 ans de Capitole. T'sais, bon, Rodrigol, puis on a fait une espèce de soucoupe volante, c'était Simon Paquet qui avait fait ça, puis on a enregistré des albums de musique avec ça, puis tant qu'il va vite, on va faire une soirée Rodrigol et tout, puis à un moment donné, le saut Rodrigol, finalement, est un saut qui appartient à personne,
ouais.
Mais qui apporte à chacun de nous. On se promène dans une affaire, on rencontre bon, ah, les Rodrigues, on est catalogués, mais en même temps, on est catalogués parce que pendant 10 ans de temps ou 12 ans de temps, on met tout le temps, à chaque fois qu'on fait un projet artistique, peu importe, comment qui, quand il émerge de nous, on le signe sous le même nom. Puis, à la limite, ça, c'est peut-être le côté le plus manifeste qu'on peut avoir, c'est le branding.
La notoriété.
c'est peut-être ça, finalement, l'effet de groupement. Là,
Oui, effectivement, quand on dit Rodrigues, c'est le moindrement qu'on a circulé un peu dans le
monde. Commence à avoir un référentiel.
Absolument. Un signifiant qui est devenu. Un signifiant qui est devenu signifiant.
Et voilà, on est perdu. Fin de la discussion.
On pourrait terminer là-dessus. Rodrigues, c'est drôle, moi, je pensais. D'où ça leur vient, ça, Rodrigues? J'entendais Rodrigue puis Guignol là-dedans. Donc, comme tu là avec Capitole, très bien.
Oui, c'est ça. Rodrigue est un nom rigolo. Puis c'est aussi au résultat de tout ça, ça donne un nom créé, un nom original, qui a une personnalité, si tu veux.
Oui, il y a une figure derrière quand même. On sent bien dans le nom.
Les éditions du Petit Ruisseau.
Ben, je te remercie, André. Merci, Pascal.
Merci.
Merci. Et longue vie à Rodrigues, sans principe, mais avec beaucoup de volonté.
De projet. Thank you.